12. Marc 12, 28 à 37. Un spécialiste des Écritures les avait entendus discuter. Il vit que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens. Il s'approcha de lui et lui demanda : quel est le premier de tous les commandements ? Jésus lui répondit : voici le premier. Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être, de toute ta pensée et de toute ta force. Et voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus important que ces deux-là. Le spécialiste des Écritures reprit : très bien, maître, ce que tu dis est vrai. Dieu est unique et il n'y en a pas d'autre comme lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence et de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même est plus important que toutes les offrandes et les sacrifices d'animaux. Jésus vit qu'il avait répondu avec intelligence et lui dit : tu n'es pas loin du règne de Dieu. Et personne n'osait plus lui poser de questions. Alors que Jésus enseignait dans le temple, il posa cette question : comment les spécialistes des Écritures peuvent-ils dire que le Christ est le fils de David ? David lui-même, inspiré par l'Esprit Saint, a dit : le Seigneur a dit à mon Seigneur : assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je mette tes ennemis sous tes pieds. David lui-même l'appelle Seigneur. D'où vient alors qu'il soit son fils ? La foule nombreuse écoutait Jésus avec plaisir.
On ne le dit pas souvent, mais vous voyez qu'on aimait écouter Jésus. Il avait une compréhension de la Bible qui dépassait tout ce qu'on ne pouvait imaginer. Il voyait des choses que nous, on ne voit pas dans la Bible, dans la parole de Dieu. Pourtant, vous voyez là, il y avait un scribe. Moi, j'en ai rencontré un scribe déjà. Ça existe toujours. Il recopie toute la Bible à la main. Toute la Torah de Moïse, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Il faut une année pour ça. J'en ai vu un à Clermont-Ferrand. Il est venu apporter le rouleau pour la synagogue. Donc ils connaissent tout, la moindre lettre. Ils connaissent la Bible. Ils peuvent aller très très loin dans la compréhension de la parole de Dieu, comme les protestants qui la lisent. Beaucoup. Et là, il y en a un, il connaît bien la Bible. Et pourtant, Jésus lui dit : tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Oui. Il n'est pas loin, mais il n'y est pas. J'ai lu un bouquin, une bande dessinée plus exactement, sur l'Antarctique. Vous savez que c'est un continent qu'on ne connaissait pas. On ne savait même pas que ça existait jusqu'au début du 19e siècle. 1820, on a commencé à avoir la preuve qu'il existe. Parce qu'il est très difficile d'accès. C'est des mers gelées ou à moitié gelées, c'est impossible. Donc, on supposait une existence d'un continent inconnu. Eh bien, nous pouvons dire que le règne de Dieu, c'est un continent qui nous est inconnu. Même quand on lit bien la Bible. Il faut que quelqu'un nous donne la clé. Vous savez, dans l'Apocalypse, il y a une vision extraordinaire, c'est un lit, un rouleau scellé. Et on crie surtout dans toute la création : qui va ouvrir ? C'est la Bible. Hein ? Qui va ouvrir ? Personne sur terre n'a pu ouvrir. Vraiment, donner toute la connaissance qu'il y a de la parole de Dieu, c'est que Jésus. Alors l'Antarctique, j'ai commencé à vous en parler, c'est donc un continent immense, beaucoup plus grand que l'Europe. Je peux même vous dire que c'est 14,2 millions de kilomètres carrés. En comparaison, la Chine, c'est 9,6 millions de kilomètres carrés, les États-Unis, 9,8. Il n'y a que la Russie qui est à peu près de la même taille que l'Antarctique. Et donc, évidemment, on a cherché à aller jusqu'au pôle sud. Et vous vous rendez compte des centaines de kilomètres qu'il faut traverser un désert de glace. Il n'y a rien, aucune vie. Des vents violents qui peuvent atteindre 300 km/h. Eh bien, Amundsen, c'est un Suédois qui a fait ça. Il a réussi. Presque au même moment, Scott, un Britannique, est passé quelques jours après lui. Et quand il est revenu, Scott, avec son équipe, eh bien, ils n'ont pas réussi à réintégrer la base où il y avait d'où ils étaient partis. Il y avait trop de vent, trop de neige, ils sont morts les uns après les autres. Et quand Scott est mort en dernier avec les hommes qui restaient, ils étaient, vous savez, à combien? Ils étaient à 18 km de l'endroit où ils auraient été sauvés. C'est une histoire très très connue pour ceux qui s'intéressent à l'Antarctique. Donc cet homme-là, il était pas loin du royaume de Dieu. Et il n'y était pas. Alors qu'est-ce qui est vraiment le royaume de Dieu, où les commandements de Dieu peuvent être totalement vécus, sont vraiment vécus complètement, l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Dans la plénitude, où cet amour est vécu dans sa plénitude. L'apôtre Jean nous dit, je vais lire ça dans 1 Jean 4, verset 10, parce que quand on parle de l'amour, il y a beaucoup de textes. Alors, je vous en ai choisi un, là, dans 1 Jean 4, verset 10, voici ce qu'est l'amour. On a une définition dans 1 Jean 4, verset 10. Voici ce qu'est l'amour, ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu. C'est lui qui nous a aimés et qui a envoyé son Fils en victime d'expiation pour nos péchés. Donc l'amour, c'est que nous, on n'aime pas. C'est pas possible d'aimer pleinement comme cela nous a été donné dans la loi de Dieu. Tu aimeras ton prochain, tu aimeras Dieu. Nous n'avons pas aimé Dieu, mais lui nous a aimés. Ça, c'est la définition de l'amour. Maintenant qu'il nous a aimés, que nos péchés sont expiés dans son Fils, nous pouvons aimer dans son Fils. Là, c'est le royaume. C'est le royaume de Dieu. C'est pour ça qu'il y a la Sainte Cène. Parce que nous sommes dans le Fils quand nous prenons sa chair et que nous la mangeons. Quand nous prenons son sang et que nous le buvons, nous sommes dans le Fils, nous sommes dans le royaume où il y a l'amour dans sa plénitude. Comment ça se fait que l'homme n'aime pas Dieu? À cause du péché. Le péché nous fait croire que lorsque Dieu nous parle, c'est pour nous faire souffrir, pour nous juger. Nous voyons tout le temps la mort quand Dieu veut s'approcher de nous. Ah, voilà. Voilà, on est comme ça. Adam et Ève, ils étaient comme ça. Quand Dieu a recommencé à se balader dans le jardin, parce qu'ils se promenaient tous les soirs dans le jardin. rendez compte, Adam et Ève avaient des discussions avec Dieu, ils se baladaient comme ça, dans le jardin. Mais quand, après le péché, ils ont eu très peur, ils se sont cachés, ils ne pouvaient plus du tout accepter cette approche de Dieu. Alors Dieu, il a fait quoi? Puisque l'homme a peur de lui. L'homme pense que si Dieu s'approche, c'est pour me faire mourir. Puisqu'il avait dit, si tu manges de cet arbre-là, tu mourras. On est mort spirituellement et on ne connaît pas Dieu. Qu'est-ce qui est la solution? Eh bien, vous savez que quand j'ai dit, on ne connaît pas, ce verbe connaître est très intéressant en français. Co, ça veut dire avec, c'est une préposition qui vient, je crois, du grec, oui. Connaître. Il faut naître. Naître de Jésus, de son Père. Il nous a fait naître de Dieu. Et maintenant, nous sommes dans le royaume. Et comment il a fait ça? En nous aimant jusqu'à la mort de la croix. Nous, maintenant, nous pensons que lorsque Dieu nous parle, c'est pas pour nous faire mourir, mais pour nous faire vivre. Et nous croyons ça à cause de Jésus. La croix ne nous fait pas peur parce que c'est là que nous sommes nés en Dieu, par l'amour de Jésus. Oui, Jésus est venu aimer de la part de son Père l'être humain qui a peur de Dieu, l'être humain qui croit que Dieu ne veut que sa mort. Vous savez, il y en a des religions. Il y en a. Il y en a toujours eu. On s'en fabrique nous-mêmes quand il n'y en a pas assez encore. Hier soir, on a entendu enfin des témoins à portes ouvertes. C'était la soirée des témoins de plusieurs continents, de pays différents. Il y a 340 millions de chrétiens qui vivent la haine, qui vivent l'hostilité et les menaces. Mais parce qu'ils témoignent de Jésus. Parce que l'être humain, il croit que quand on témoigne de Jésus, c'est pour que ça ne va pas me faire du bien, que ça va déranger ma petite vie tranquille, que ça va déranger ma vie de famille, ça va déranger la société. Alors on se persécute les chrétiens. 340 millions. Et ça, c'est pas nouveau. Israël a toujours été persécuté. Toujours. Et encore aujourd'hui, Israël est toujours persécuté. Pourquoi? Parce qu'il est le témoin. Le témoin de Dieu. Le témoin qui Dieu parle. Il a parlé et parle. Et ça dérange. Parce que l'être humain a peur de Dieu. Il n'en veut pas. Il ne croit pas que Dieu l'aime. On a entendu hier soir un pasteur algérien. Il nous a dit qu'il connaît une vieille dame, une femme âgée, algérienne, qui a quelque chose qui l'a fait venir vers les chrétiens, qu'elle a entendu. Cette parole de Jean 3,16 que nous on connaît par cœur, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Ben pour elle, c'était nouveau, totalement nouveau. Elle est une personne à la fin de sa vie, elle découvre une chose qu'elle n'a jamais entendue. Jamais on dit dans l'islam que Dieu aime. Moi, ça me touche que quelqu'un soit touché par cette parole que moi je connais, mais elle ne me touche plus. Parce que je la connais trop. Et quand on connaît trop, ben on ne connaît pas. On n'est plus touché parce qu'il y a une merveille dans la Bible que Dieu elle nous dit, Dieu a tant aimé le monde. Ça renverse tout ce que l'être humain a construit comme religion. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Et ce pasteur algérien disait aussi, mais nous on aime ceux qui nous persécutent. On ne les bénit pas dans le mal qu'ils nous font, mais on les bénit. On les bénit pour ce qu'ils sont pour Dieu. Dieu les aime. Sinon, il n'y aurait pas la croix. La croix, c'est que Dieu aime l'homme quand l'homme rejette Dieu. Mais Dieu l'aime. L'homme rejette, mais Dieu l'aime. Et ce pasteur, il disait, mais ceux qui nous persécutent, ils ont besoin de nous. C'est nous qui sommes la vie de ce pays. Est-ce que nous croyons, nous, un petit groupe là de chrétiens, là, place du Chassin, dans un temple, que, ou bien au bout d'un ordinateur avec Zoom ou d'un téléphone, que nous sommes la vie de la France. L'avenir de la France, il est là. Jésus, le royaume de Dieu. C'est lui qui a gagné. Je vais vous raconter une petite histoire qui m'est arrivée la semaine passée. On a de temps en temps une joie immense, nous, à 13 routes des rivières, j'habite avec ma femme, là. Et on a de temps en temps trois enfants qui nous sont amenés par des parents qui s'appellent Schneller.
Tiens, qui c'est ?
Ah, il y a le papa, il s'appelle Denis, la maman, elle s'appelle Héloïse.
Ah, d'accord.
Tu vois à peu près qui c'est ?
Ouais.
Alors, trois enfants, alors j'ai emmené les deux plus aînés, là, les deux filles, là. On est allé faire un peu de vélo. Et alors, on fait la course. Et il y a... Moi, je suis à pied quand même. Hein. Et alors, on fait la course. Et comment elle s'appelle Naomi, elle est à pied aussi. Et on court. Et Anaël, on commence, Anaël sur son vélo, elle gagne la course. Et moi, j'arrive beaucoup plus tard. Parce que Naomi était tombée, elle s'était égratignée, je l'ai prise dans mes bras, on a fait les bisous magiques, et je l'ai amenée à Anaël pour qu'elle fasse aussi des bisous magiques. Alors Anaël m'a dit ça. Enfin, moi j'ai gagné, toi t'as perdu. Elle ajoute, mais tu as gagné par l'amour. J'ai enregistré ça dans ma petite tête. Alors, Jésus, il a perdu sur la croix, on l'a tué, mais il a gagné par l'amour. C'est là le royaume de Dieu, dont le scribe n'était pas loin. Il était tout près. Et il n'était pas dedans. Il faut être dans la croix, il faut être dans la croix et la vie de Jésus qui est crucifié et ressuscité. Et en lui, ces commandements que Dieu a donnés, et qui ne sont pas, comment dire, facultatifs, hein, tu aimeras le Seigneur, tu aimeras ton prochain, ce n'est pas facultatif. Et on n'y arrive pas, on le sait bien. Mais il y a quelqu'un qui s'est venu s'approcher, quelqu'un est venu s'approcher de nous, qui étions tellement loin de Dieu. C'est Jésus. Il raconte ça dans la parabole du bon samaritain que tout le monde connaît. Même les SDF, ils m'ont cité cette... ils m'ont cité un autre parabole. Matthieu, article, ils ont dit Matthieu, article 25. Voilà, tu donneras un verre d'eau, au moins. Ou un verre de bière, je ne sais pas quoi. Alors, Jésus, c'est celui qui s'est approché de celui qui était blessé. C'est lui. Et donc, il est venu chercher l'homme loin. Le prochain, c'est celui qui était pour nous le plus loin, qui est devenu le plus près. Parce que c'est Jésus. Il était auprès de Dieu, il est venu, il est devenu un être humain. On pouvait vraiment le prendre dans ses bras. Il y a des gens qui l'ont pris dans ses bras quand il était bébé. On ne peut pas être plus près des hommes que ça. celui-là qui a en lui l'amour pour Dieu, il n'a pas eu d'autre désir que de faire ce que son père lui disait. Tout le temps, il cherchait, tous les jours, il cherchait la volonté de son père. Et il cherchait à être totalement fidèle à la volonté de son père, et il réussissait. Comme ça, c'est comme ça qu'il a fait tous les miracles, parce qu'il écoutait son père. On ne pouvait pas ressusciter des morts, un mort qui était déjà en train de se décomposer, et c'est Lazare. Vous ne pouvez pas faire ça si vous n'écoutez pas profondément Dieu qui va le faire, qui le fait en Jésus. Il ressuscite les morts. Donc Jésus est celui en qui nous pouvons aimer le prochain et aimer Dieu. Il s'est incarné, nous ne savons pas qui, dans la personne que nous rencontrons, ne serait pas Jésus venant vers nous. C'est possible pour toute personne. Que toute personne, c'est possible en toute personne que ce soit Jésus, à qui nous avons affaire. Car nous ne savons pas comment lui choisit les gens. Ça, nous ne savons pas. Puisque je vous ai parlé de l'Antarctique, je vais encore vous raconter une chose qui m'a profondément marqué. Dans l'histoire de l'Antarctique, il y a l'histoire du Britannique qui s'appelle Ernest Shackleton. Quand la Première Guerre mondiale a commencé en 1914, le même jour, c'est le 8 août, qu'on peut dater la Première Guerre mondiale, le début du 8 août 1914. Lui est parti vers l'Antarctique avec 27 hommes, des gens courageux. Churchill lui a dit non, allez-y. Il aurait dû être mobilisé pour la guerre, mais Churchill lui a dit non, allez-y. La conquête de l'Antarctique, c'est important aussi. Le but, c'était de traverser en traîneau l'Antarctique. Manque de peau, leur bateau, je vous ai dit qu'il y a, c'est un continent, l'Antarctique, mais il y a de la glace autour, mais c'est des blocs de glace, c'est des mers de glace, et ça dépend des saisons, leur bateau a été emprisonné dans cette glace. Ils ont dû attendre déjà sur le bateau, survivre pendant 9 mois. Quand le dégel est arrivé, ils espéraient pouvoir reprendre avec le bateau, et bien le bateau a été brisé. Ils ont pu sauver les vivres et les chaloupes, les mettre sur la banquise, et donc dû encore survivre sur cette banquise pendant longtemps. Et après, il n'y avait plus d'autre solution que de s'en aller, mais il n'y avait plus de bateau. Mais il y avait une chaloupe. Et la mer qui sépare l'endroit, l'île, comment ça s'appelle là, ils se sont laissés dériver sur cette chaloupe. Quelques hommes seulement, parce que tout ne pouvait pas y entrer. Ils en ont laissé sur la banquise. Ils se sont laissés dériver pour rejoindre l'île la plus proche, celle de Géorgie du Sud. Manque de peau, ils ne sont pas arrivés de bon côté de l'île. Le port baleinier où ils auraient eu les secours était de l'autre côté. Il fallait traverser une chaîne de montagne enneigée de 3000 mètres, que personne n'avait encore jamais traversé. Ils l'ont fait. Ils ont pu, au bout d'un moment, récupérer, aller sauver tous les autres avec un bateau. Cette épreuve a duré 2 ans, de 1914 à 1916. Et ce Ernest Shackleton, ils n'ont pas réussi leur exploit, mais il a fait un exploit beaucoup plus grand que de traverser en traîneau tout l'Antarctique. Il a réussi à maintenir en vie ces 27 hommes qui avaient fait le pari avec lui de faire ce voyage. Il a tous les jours, il avait sauvé sa guitare aussi du naufrage, parce que c'était important de remonter le moral avec des chants. Et tous les jours, il variait un petit peu le menu, alors qu'on mangeait tout le temps du phoque. Il a fait passer l'intérêt de ses hommes toujours en premier, en prenant sur lui toutes les souffrances possibles et imaginables, seulement pour sauver ces hommes-là. Et pendant ce temps, il savait qu'il y avait une guerre. La première chose qu'il a demandé, qu'est-ce qui se passe? La guerre est-elle finie? En 1916, elle n'était pas finie. Hein. Il a dit non, c'est une horreur. Les hommes sont devenus fous, ils se tuent les uns les autres. Voilà, dans l'horreur de ce monde où on se tue les uns les autres, Dieu n'a pas épargné son propre fils. Et lui n'a épargné aucune peine pour gagner la vie de ceux qui se perdent. En lui, vraiment, l'amour pour le Père qui lui a demandé ça, qui lui a dit, t'es pas obligé. Jésus n'était pas obligé. Mais il y avait de l'amour pour son Père. Et là, alors, son Père a fait confiance. Il lui a donné tous les hommes à sauver. Il les a tous sauvés. Il n'a pas perdu un. Jésus peut dire, je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. Si ce n'est le fils de perdition, pour que l'Écriture soit accomplie, ça c'est dans Jean 17. Mais il a aimé celui qui l'a livré et qui n'a pas rendu l'amour. Il l'a aimé totalement, sans qu'il y ait de retour à cet amour. Ça c'est l'amour de Dieu et l'amour des hommes. Jésus n'a pas mis sa propre vie comme prioritaire par rapport à la nôtre. C'est la nôtre qui est prioritaire. Pour qu'il prenne notre mort et qu'il nous donne sa propre vie, que nous soyons capables aujourd'hui et chaque jour d'aimer Dieu et d'aimer notre prochain. Amen.